Mobilisation d'ampleur dans toute la France pour le retrait du projet sur les retraites. Reportage de Catherine Pétillon en tout début de ce journal. Et puis notre invité à suivre sera Frédéric Sève, secrétaire général de la CFDT chargé des retraites. SNCF et RATP, ce qui va rouler ou pas. Demain, le point dans un instant avec Hakim Kasmi. Suite du procès Balkany devant la cour d'appel de Paris en l'absence du maire de Levallois, mais son épouse Isabelle est là et bien là. Compte rendu d'audience de Florence Sturm. Le pape fait un geste pour la transparence dans les dossiers de violences sexuelles dans l'église, la levée du secret pontifical. Correspondance de Bruce de Galza à Rome. 700 000 personnes selon les syndicats, 615 000 selon la police, chiffre de la mobilisation de ce mardi dans toute la France contre le projet de réforme des retraites, à l'appel pour la première fois de l'ensemble des syndicats, CFDT, CFTC et UNSA, ont rejoint CGT, FO, la CFE-CGC, Solidaires et FSU pour une première manifestation unitaire. Tous les secteurs étaient aussi représentés, certains réclamant le retrait pur et simple de la réforme, d'autres seulement la abandon de l'âge d'équilibre de 64 ans. Le reportage de Catherine Pétillon.
C'est un cortège dense qui a parcouru Paris, cheminots, bibliothécaires, agents des impôts, avocats et aussi beaucoup d'enseignants particulièrement mobilisés. Sébastien est instituteur en banlieue parisienne.
J'ai un travail qui est de plus en plus important, les primes qui ne sont même pas payées, un salaire pour un cadre A de la fonction publique qui est au rabais et je me retrouve en plus avec une retraite amputée. Ma femme est également enseignante, on est doublement touchés dans cette réforme et c'est pour ça qu'on est dans la rue aujourd'hui.
Dans le cortège, Julien, salarié de l'INSEE, distribue une analyse des retraites. C'est le moyen qu'ont trouvé les statisticiens grévistes de se mobiliser.
On sait ce qu'a publié la statistique publique et on aimerait que les citoyens se saisissent de ces données-là pour pouvoir participer au débat public et se mobiliser. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette réforme, elle touche à un système qui a fait ses preuves, qui a sorti les retraités de la pauvreté. Je suis convaincu qu'on peut maintenir un système qui me permette d'avoir une retraite. Et l'objectif, c'est que ce système, il reste solidaire, il comprenne l'ensemble de la société et il permette un niveau de vie décent pour l'ensemble des retraités.
Cyril, lui, est juriste dans une entreprise d'agroalimentaire, mais les salariés du privé restaient peu nombreux hier.
Il ne faut pas opposer public et privé, on est tous dans le même bateau. Après, il faut voir quelle société on veut, est-ce qu'on veut une société avec des riches et des pauvres ou une société solidaire.
Lui s'inquiète d'un futur où les retraites décentes seraient réservées à ceux qui pourront s'offrir des complémentaires privées. C'est aussi ce que dénonce le docteur Caroline Acoucombe, elle travaille à l'hôpital Saint-Louis.
Dire aux gens qu'effectivement il ne va plus y avoir et de sécu et de retraite et qu'il faut qu'ils capitalisent pour la retraite et qu'ils payent une assurance privée pour la mutuelle. Voilà, c'est le même discours, tout ça va bien ensemble.
Dans la rue, beaucoup se disaient prêts à revenir manifester.
Un black bloc qui s'était regroupé à l'arrivée du cortège parisien a été rapidement dispersé. Les forces de l'ordre auraient en tout procédé à une trentaine d'interpellations. Et nous retrouvons maintenant Frédéric Sève, secrétaire général de la CFDT chargé des retraites. Frédéric Sève, bonsoir.
Bonsoir.
Édouard Philippe dit qu'il vous tend la main avec les rencontres de cette semaine. En même temps, il a rappelé aujourd'hui devant l'Assemblée que son gouvernement tient à l'âge pivot de 64 ans. C'était votre ligne rouge. Alors, qu'est-ce que vous pouvez espérer de ces nouvelles discussions ?
Bah écoutez, je vous avais posé les termes de l'équation, hein, c'est-à-dire nous rencontrer pour nous redire la même chose, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Donc on va écouter ce que le Premier ministre propose. Mais on lui redira d'ailleurs que l'âge pivot tel qu'il le propose, tel qu'il le décrit, ça n'est pas la feuille de route qui avait été donnée au début de la discussion sur les retraites. C'est une mesure qui vise à faire des économies en incitant, forçant les gens à travailler plus longtemps. Ça fait 2 ans qu'on dit que ce genre de mesure, on ne l'accepterait pas, on la combattrait. Bon ben, on en est là pour l'instant. Au Premier ministre de bouger, de nous dire s'il imagine autre chose.
Et vous, qu'est-ce que vous demandez? Que le gouvernement mette son projet en stand-by et qu'il vous donne à vous le temps de faire, par exemple, des contre-propositions?
Notre proposition à nous, c'est que, comme c'est l'esprit, j'allais dire, de la réforme, que l'on confie à ce qu'on appelle la gouvernance dans notre jargon, c'est-à-dire le conseil d'administration, les partenaires sociaux qui seront chargés de gérer le système, et bien d'en assurer l'équilibre financier, avec des délais raisonnables, hein, on n'est pas sous une urgence financière, et puis avec les moyens qu'ils jugeront bons de se donner. Qu'on ne nous impose pas ni un terme d'équilibre en disant qu'il faut équilibrer et compte dans 6 mois, c'est pas vrai, les systèmes sont largement consolidés, ils peuvent tenir. Et puis surtout qu'on ne nous impose pas une mesure, une façon d'atteindre l'équilibre par une mesure d'âge et en plus en imposant une mesure d'âge parmi l'autre, ce fameux âge d'équilibre. Donc qu'on fasse jouer la démocratie sociale, qu'on fasse confiance aux partenaires sociaux. on prétend être tout aussi capable que le gouvernement d'équilibrer les comptes, on l'a montré dans le passé, et on pense être capable de le faire de façon plus juste.
Vous avez en la matière un projet achevé ou très avancé. Quels seraient, selon vous, les leviers qu'il faudrait agiter pour réformer le système des retraites?
Pas
alors
du tout, on n'a pas de modèle achevé, parce qu'encore une fois, il n'y a pas besoin d'équilibrer les comptes dans les 15 jours. Et si on veut faire jouer la démocratie sociale, il faudra d'abord en discuter avec tous les acteurs, tous les partenaires de ce futur système. Disons néanmoins que je rappelle qu'aujourd'hui et jusqu'en 2035, on est dans, même de, peut-être un peu au-delà, mais 2035, nous sommes régis par la loi Touraine qui programme une augmentation de la durée d'activité. C'est-à-dire que le nombre de trimestres pour atteindre le taux plein augmente régulièrement jusqu'à la génération 1973, c'est-à-dire ce qui nous monte même jusqu'en 2035. Donc les salariés, les travailleurs, les actifs font déjà un effort en matière d'âge. Je rappelle aussi que ces 30 dernières années, les travailleurs toujours ont fait beaucoup d'efforts en termes de niveau de pension, en termes d'augmentation de la durée de cotisation pour équilibrer le système de retraite. Ce serait peut-être temps qu'on considère aussi les autres leviers, qu'on n'a aucune raison, notamment l'autre levier, celui des cotisations, qu'on n'a aucune raison d'exclure a priori comme le fait le gouvernement.
Vous, vous préconiseriez qu'on augmente davantage les cotisations sociales et donc le coût du travail?
Le coût du travail, c'est surtout un salaire différé, hein, c'est-à-dire que les cotisations, c'est surtout un salaire auquel on renonce dans l'immédiat pour le consacrer hein, au paiement des retraites plus tard. Tout de même, soyons sérieux, hein, c'est des dixièmes de points qui sont en cause, qui sont en question. Quand on regarde le rapport du COR, on a des registres de hausse qui sont tout à fait raisonnables. Mais j'insiste, c'est pas une solution a priori qu'on impose. On dit qu'il faut le regarder, qu'il n'y a aucune raison de faire comme le fait le gouvernement, d'exclure a priori certaines mesures et se focaliser que sur une seule, l'âge de la retraite. Et c'est d'autant plus choquant que le gouvernement, par ailleurs, refuse d'aborder, de mettre malgré nos demandes répétées, refuse de mettre sur la table des dispositifs comme la prise en compte, la reconnaissance de la pénibilité, qui pourrait être une façon, à terme, de permettre aux gens d'arbitrer plus facilement entre prolongement de l'activité et au niveau de la pension. Donc on a un gouvernement qui s'y prend un peu à l'envers, qui s'y prend même complètement à l'envers en matière de transformation du système de retraite.
La pénibilité comme une sorte de variable d'ajustement?
Non, c'est pas une variable d'ajustement, mais c'est un chantier de long terme, hein, la pénibilité, la reconnaissance de la pénibilité, le travail en amont de la pénibilité, rendre le travail moins pénible, principalement pour permettre aux gens justement d'être en capacité d'arbitrer entre travailler plus longtemps ou liquider tout de suite. Le problème de décaler l'âge, ça peut être joli sur le papier, ça fait faire, les comptables vous disent que ça fait faire des économies, mais ça oblige les gens à un choix, enfin un faux choix, hein, c'est-à-dire que ceux qui n'en sont pas capables de se maintenir en emploi, par exemple parce qu'ils sont cassés par le travail, ben ceux-là, on leur impose un choix unique, c'est celui de la baisse de pension. C'est la même chose pour ceux qui sont au chômage et qui n'arrivent pas à retrouver d'emploi. Donc travaillons sur ces mécanismes de prévention, de correction en amont, et après on pourra se poser de façon plus claire les choix fondamentaux de tout système de retraite, effectivement, entre niveau des pensions, niveau des cotisations et durée de cotisation.
Est-ce que la CFDT vous appelait à la trêve pour Noël si rien ne bouge? Est-ce que vous avez une chance d'être entendu?
Il nous semble que vouloir jouer le contraire d'une trêve, c'est vouloir jouer le conflit à un moment où tout le monde a envie de se retrouver entre amis et en famille, c'est pas forcément une bonne idée. Mais j'insisterai surtout sur le fait que on est en train de gagner la bataille de l'opinion. On a vu que l'opinion se retourne et prend parti pour le mouvement social, notamment depuis les annonces d'Édouard Philippe. Donc je crois qu'on n'a pas besoin de pousser plus que ça, et au contraire, on se grandirait auprès de l'opinion en montrant qu'on est soucieux, qu'on est quelque part moins jusqu'au boutiste, moins droit nos deux bottes jusqu'à les caricatures que peut l'être le gouvernement.
Après la démission de Jean-Paul Delevoye, le ton change à son égard du côté du gouvernement. Après avoir assuré l'opinion publique de la bonne foi totale de son ministre, Édouard Philippe, qui entendait dédouaner les services du gouvernement qui, selon le journal Le Monde, était au courant du cumul de rémunération du haut fonctionnaire, le haut commissaire aux retraites a répliqué le Premier ministre, était informé de ses obligations comme chaque personne qui rentre au gouvernement. Du côté des transports, le trafic SNCF devrait connaître une légère amélioration. Demain, un TGV sur 3 va circuler, 4 TER sur 10 et un Transilien sur 4. Un Intercité sur 6 sera assuré. Trafic international toujours très perturbé. À Paris, le trafic RATP sera également très perturbé avec 8 lignes de métro fermées. Et c'est dans ce contexte que la direction de la SNCF a présenté hier son plan de bataille pour transporter le plus de voyageurs possible pour le week-end de grand. avant départ des vacances de Noël. L'entreprise Hakim Kasmi estime qu'elle pourra faire voyager tous ceux qui ont déjà réservé un billet de TGV.
Si la SNCF se veut rassurante en indiquant qu'elle aura suffisamment de capacité pour transporter ce week-end les passagers ayant déjà réservé un billet de TGV pour les départs des congés de Noël, la patience sera de mise. Car dans la moitié des cas, les voyageurs devront changer d'horaire ou d'itinéraire. Quant à ceux qui auront leur train annulé, soit un tiers des clients, ils pourront changer gratuitement leur billet de train, y compris pour un Ouigo, la marque low cost de la SNCF. Rachel Picard, la directrice d'SNCF Voyage.
Pour le Paris-Grenoble, par exemple, où normalement on a 9 allers-retours chaque jour, pour pouvoir faire avec les ressources disponibles, c'est-à-dire avec peu de conducteurs et puis peu de personnes dans les postes d'aiguillage, on fait seulement 5 allers-retours, mais on double les rames. Donc on a de quoi accueillir le nombre de passagers qui tenaient dans les 9 rames, puisque en fait on a l'équivalent de 10.
Des chiffres beaucoup trop optimistes, selon Didier Aubert, le secrétaire général de la CGT Cheminots.
Nous avons les taux de pyramide qui sont quand même assez soutenus, y compris dans le cadre des agents de conduite. Et même s'ils font rouler beaucoup d'agents d'encadrement en remplacement, ça va avoir du mal à tenir l'objectif.
Au total, la SNCF estime pouvoir offrir 850 000 sièges ce week-end.
L'audience s'est poursuivie aujourd'hui au procès en appel des époux Balkany, condamnés en première instance respectivement à 4 et 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale. Isabelle Balkany y était seule, son époux étant toujours hospitalisé. La première adjointe au maire de Levallois-Perret qui a une fois de plus animé les débats avec un aplomb phénoménal. Compte rendu d'audience, Florence Sturm.
Les rappels à l'ordre de la présidente n'y changeront rien. Isabelle Balkany s'indigne, s'agite, coupe la parole au magistrat, rit de ses propres réparties, cherche l'approbation d'un public absent, en profite pour asséner quelques pics aux journalistes. Accusée avec son époux d'avoir éludé près de 3 millions d'euros d'impôts sur le revenu entre 2009 et 2014, elle reconnaît aujourd'hui une erreur, une faute, une infraction. J'ai fait beaucoup de sémantique, glisse-t-elle à tout propos avec une certaine fierté. Pendant des années intervient la présidente, vous déclarez entre 50 000 et 70 000 euros par an, alors que vous en versez 68 000 à vos salariés. La prévenue lève les yeux au ciel. Qu'on vienne me dire que mes dépenses sont supérieures à mes revenus, c'est une évidence du bon Dieu, la résurrection de la palisse. Oui, mon mari et moi sommes nés avec une cuillère en argent dans la bouche, poursuit Isabelle Balkany. Elle se redresse. Nous avons assuré notre train de vie avec notre capital. Elle continue en revanche à nier être propriétaire du riad de Marrakech et jamais assumer le paiement du personnel, questionne l'avocate générale. Riposte immédiate, non, puis digression moqueuse sur les gendarmes venus perquisitionner le moulin de Giverny avec un chien renifleur qui n'a trouvé que 2 pièces dans un flipper, s'exclame-t-elle dans un éclat de rire. Tout ça est tellement absurde, les bras m'en tombent. Isabelle, asseyez-vous, finit par lui intimer son propre avocat.
La cour entendra demain après-midi les réquisitions de l'avocat général dans ce procès. Les suites de l'affaire Benalla, Vincent Kras a été placé aujourd'hui en garde à vue dans l'enquête sur le contrat russe, enquête pour corruption, contrat négocié par Alexandre Benalla du temps où il était à l'Élysée. Vincent Kras est interrogé par les enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance économique dans le cadre d'une enquête du parquet national financier. L'industriel milliardaire russe Iskander Mamoudov est présenté par la justice comme faisant partie d'une puissante organisation criminelle. Comment mettre fin aux abus sexuels sur mineurs dans l'Église? Un nouveau pas du pontife dans la lutte contre les violences sexuelles dans l'Église. Le pape vient en effet de prendre une décision d'importance. Il supprime le secret pontifical en la matière, secret qui a rendu jusqu'à présent les procédures plus difficiles et surtout plus opaques. Le Vatican se veut désormais bien plus transparent, Bruce de Galzin.
C'est le jour même de son anniversaire que François décide d'abolir le secret pontifical pour les cas d'abus sexuels sur mineurs. Cela veut dire que les magistrats de tous les pays du monde auront désormais accès aux rapports, aux procès, aux décisions de la justice vaticane qui concernent ces crimes de pédophilie. C'est une décision historique, la levée d'un secret papal, mais qui s'inscrit dans un changement d'époque et même au Vatican. François insiste d'ailleurs à nouveau sur l'obligation de dénonciation des supérieurs, des prêtres ou des religieux qui ont commis des abus. Et le pape précise que ceux qui dénoncent, ceux qui ont été victimes et même les témoins n'ont plus aucune obligation de silence à l'égard des faits. Autrement dit, lorsque l'on sait, on ne peut plus se taire. Enfin, jusque-là au Vatican, seul un prêtre pouvait être avocat ou procureur dans les procès pour abus sur mineurs. Désormais, un laïc, titulaire d'un doctorat en droit canon, pourra remplir la fonction.